C'est le train de la vie qui nous emporte. Le voilà qui s'avance et met nos sens en effervescence. Une avancée irrésistible, un mouvement sans fin. L'élan vital en quelques notes, la pulsation fondamentale. La vie, tout simplement. Cramponnez-vous au bastingage, voici l'essence du swing, de ces essences aux parfums enivrants qui font tourner les têtes et libèrent les corps car ils pénètrent tous les sens. Voici l'essence du swing. Du swing dans tous les sens. Ancien de Duke Ellington qui se livre à des acrobaties aériennes sur son saxo alto. C'est Johnny Hodges qui vole de ses propres ailes à la tête d'une petite formation, entouré d'accompagnateurs choisis par lui. Avec le trompettiste Cootie Williams et le sax ténor Al Sears, Johnny Hodges fait partie de ces musiciens qui se sont détachés du Duke pour courir une aventure personnelle. Ces groupes qu'ils ont constitués distillent leurs essences essentielles où simplicité et concision sont au service d'un swing intense. C'est à ces détachements de Duke Ellington que l'émission d'aujourd'hui est consacrée. Vous êtes avec Mr. Lucky sur CFM Radio pour votre rendez-vous mensuel du swing, les sens du swing dans tous les sens. Signature de Johnny Hodges et de Duke Ellington, l'hommage rendu par le chef à l'un de ses plus brillants solistes, car Jeep, c'était le surnom de Johnny Hodges. Il fait ici honneur à son ancien patron en déclinant son autoportrait avec un phrasé d'une grande limpidité et la légèreté du swing tranquille. Le Duke avait l'habitude de détacher de son orchestre ses meilleurs solistes et les mettait en valeur dans de petites formations où il tenait le piano. C'est ainsi qu'il créa, en 1938, le morceau que nous venons d'écouter, avec une cohorte de ses meilleurs musiciens comme Cootie Williams à la trompette, Harry Carney au sax baryton et Sonny Greer à la batterie. Mais au tournant des années 50, les big bands tournent à vide et l'heure est aux petites formations qui pratiquent un swing simple et direct et ne s'embarrassent pas d'arrangements sophistiqués. Elles tiennent alors le haut du pavé dans une démarche de réduction et de simplification qui bénéficie de l'apport des grands solistes venus des big bands. Traversant une phase d'affadissement et de reflux, la plupart sont dissous. Count Basie et Duke Ellington sont à la croisée des chemins et sont à la recherche d'une nouvelle identité face à la montée du bebop. Le premier connaîtra un nouvel essor en renouant avec sa verve originelle de Kansas City et le second puisera dans ses fondamentaux au milieu de la décennie en plaçant sur le devant de la scène ses solistes de grande classe, notamment ses saxophonistes qui se mettront en valeur au festival de Newport en 1956. Le ténor Paul Gonsalves et l'alto Johnny Hodges qui, avec sa couleur spécifique, apporte sa contribution à la palette orchestrale du Duke. Entre-temps, le dénommé Jeep aura tenté une aventure personnelle, fort de sa notoriété acquise dans le big band de Duke, qui renaîtra en cultivant une spécificité purement jazz au moment de la percée du rock. Par choix personnel, Johnny Hodges est donc retrouvé pendant 5 ans à la tête d'un petit groupe qui n'avait plus rien à voir avec les formations temporaires animées par Duke Ellington dans les années 30 et 40. Sans chanteur et sans guitare électrique, ce qui était très inhabituel à l'époque, il a figuré parmi les meilleurs grâce à la qualité de son effectif et l'esprit qu'il animait. Constitué pour moitié d'anciens du Duke, ces musiciens partageaient donc les mêmes conceptions que Johnny Hodges pour ce qui concerne le swing et les arrangements, ce qui donnait à l'ensemble une grande cohésion. Très habilement, avec des thèmes non électroniens auxquels il apportait une vigueur particulière, le répertoire intégrait des chevaux de bataille de Duke, très connus du grand public et sur lesquels Hodges se mettait régulièrement en valeur. Parmi ses anciennes big bands que sont le tromboniste Lawrence Brown et le batteur Sonny Greer, on notera la présence du saxophoniste Al Searce qui se distingue dès l'introduction par son approche expressionniste, âpre et rugueuse à l'exemple de ses collègues texans qui avaient été sémés dans d'autres petites formations. Voici, enregistré en janvier 1951, Something to Pat Your Foot To. Un morceau assez représentatif du petit orchestre qu'avait monté Johnny Hodges avec Al Searce à la direction artistique, un des musiciens phares de Duke Ellington qui l'avait entraîné dans l'aventure. C'est l'occasion pour le saxophoniste alto d'étaler toute sa classe. Ancien élève de Sidney Bechet, il se livre à un solo très mélodique tout en sinuosité mais solidement construit, mais il se distingue de la fougue de son maître par une sonorité douce et veloutée tout en utilisant des modalités expressives fortement enracinées dans l'esprit du blues. Comme le Duke, qui a été fortement influencé par Bechet à ses débuts, Hodges a mis à profit cet apport qui constitue pour lui une référence incontournable. Ainsi se révèle-t-il un remarquable improvisateur à l'élégance sensuelle qui enchaîne les choruses limpides à l'inspiration déliée et aux articulations nettes. Ellington lui a dédié un blues, Jeep Blues, et lorsque Hodges sera revenu dans son giron, ils graveront ensemble à la fin des années 50 un LP entièrement consacré au patrimoine du blues qui est resté dans les annales, Back to Back. On y entend le Duke s'immerger en petite formation dans le répertoire patrimonial avec notamment des reprises de grands classiques comme Basin Street Blues ou Royal Garden Blues. L'interprétation que nous venons d'entendre, Something to Pat Your Foot To, est signée Al Searce et se démarque du répertoire du Duke avec une composition qui repose sur une structure simple. Mais elle est dynamisée par la cohésion d'ensemble qui s'appuie sur une rythmique solide Relancé par des riffs percussifs qui alternent avec des solos. À tout seigneur, tout honneur, Alcir se réserve la primauté en ouvrant le morceau en quelques mesures qui mettent en valeur son épaisse sonorité et ses notes raclées. Au cours de son solo, il les fera grincer en grognant dans le sillage des Honkers pour honorer son surnom de Rocking and Honking Tenor. Titre donné à l'une de ses rééditions. Une expressivité dont il n'abuse pas, mais dont il se sert pour faire monter la tension. Musicien issu des Big Bands, il maîtrise parfaitement ses constructions mélodiques et fait alterner douceur et rudesse. En faisant suivre des passages joués legato par de courtes phrases sous forme de riffs joués staccato où les notes sont émises en puissance, il tire un maximum de profit de cette alternance. On l'écoute toujours avec Johnny Hodges dans un de ses chefs-d'œuvre où il se taille la part du lion sur une composition personnelle qu'il anime de bout en bout. Voici Castle Rock. C'était Castle Rock, et donc avec ce swing haletant, ses inflexions et ses notes puissamment attaquées, on comprend pourquoi ce morceau tint l'affiche pendant de longs mois et pourquoi il fut plébiscité dans les grands dancings de Harlem. L'association de Alcir avec Johnny Hodges, auquel il avait succédé en 1928 dans l'orchestre de Chick Webb, à ce moment-là, la Fitzgerald n'était pas encore entrée, cette association donc s'est révélée particulièrement fructueuse. Le turnover des musiciens les avait fait se croiser et à la fin des années 40, ils se sont retrouvés côte à côte à la section des sax de chez Duke Ellington. Pour finaliser les options qu'ils partageaient, ils ont décidé de monter un projet musical en créant une petite formation toute orientée vers le swing. C'est à ces détachements de Duke Ellington que l'émission d'aujourd'hui est consacrée. Vous êtes avec Mr. Lucky sur CFM Radio pour votre rendez-vous mensuel du swing qui vous place au cœur d'une dynamique musicale, celle des anciens de Duke Ellington avec leur petite formation. Dans ce contexte particulier, Alcir se jouait d'une grande liberté, ce qui lui a permis de donner sa pleine mesure, à la fois comme soliste et comme arrangeur. Il pourra ainsi laisser libre cours à son inspiration avec de petits orchestres qu'il avait constitués après avoir quitté Johnny Hodges. À son tour, forcément, il voudra aussi constituer un écrin qui le mette en valeur dans un environnement à géométrie variable que nous explorerons plus en détail dans la deuxième partie de l'émission avec la playlist. Par l'emprise qu'il exerçait sur les petits groupes, le sax ténor était apparu comme un élément moteur, surtout en l'absence de guitare électrique et de chanteur. Dans un premier temps, Al Sears s'est testé comme chef d'orchestre et a concrétisé son projet musical en signant des enregistrements avec l'orchestre de Johnny Hodges. Généreusement, ce dernier lui avait mis à sa disposition ses musiciens et il avait laissé sa place de sax alto à Charlie Holmes, qui s'était fait connaître avec Louis Armstrong. Alors, sans avoir l'envergure de son modèle, Charlie Holmes se montre à la hauteur, mais il faut bien reconnaître que la vedette est tenue par les deux solistes phares que sont le trompettiste Emmett Berry et Al Sears lui-même. Cette session est une parfaite réussite avec des arrangements qui attestent d'une maîtrise acquise lors de ses passages chez Duke Ellington, mais aussi chez Count Basie, Lionel Hampton, où il avait d'autres collègues sax ténors, comme par exemple Arnett Cobb, d'origine texane. En transposant en petite formation les structures musicales des big bands, le sax ténor est particulièrement mis en valeur au cours de solos très contrastés qui font état du style si personnel du maître de séance. Par la suite, porté par la vague du rock and roll, Al Sears simplifiera son style et ses arrangements pour viser une efficacité rythmique attendue du public. Mais au début des années 50, il fait preuve d'une maestria qui fait honneur autant à ses capacités de soliste qu'à celles d'arrangeur. Démonstration immédiate avec Marshall Plan. Alors, c'est pas le plan Marshall, hein. Ce Marshall en question, c'est Joe Marshall, et qui est en fait le batteur de l'orchestre. Voici l'interprétation, Marshall Plan. Canevas de blues enlevé avec beaucoup de vivacité, Al Sears fait preuve tout à la fois de ses capacités d'arrangeur et de soliste où il s'affirme comme un big sound ténor dans la lignée de ses saxophonistes à la sonorité épaisse et au style rageur. Il livre un sono avec des notes émises tout en puissance, bien appuyées sur le temps, qui génère un swing intense et évidemment il donne toute la rugosité nécessaire à sa sonorité. Ainsi, parallèlement au développement des small groups qui proliféraient sur la côte ouest des États-Unis, en privilégiant une rythmique surénergisée, Alsirs déclinait ses propres conceptions orchestrales. En mettant au premier plan son saxophone ténor, il tirait du côté de l'expressivité et dynamisait sa rythmique par la puissance de riffs hérités des big bands. Cette prééminence accordée au rythme et à l'expressivité a fait de lui un des précurseurs du rock, en marge duquel il s'est exprimé avec ses groupes au milieu des années 50. Pendant ce temps, ses anciens compagnons, qui s'étaient détachés de Duke Ellington, avaient réintégré la grande formation qui allait, dans les années 60, incarner une forme de classicisme du jazz. Après un cheminement autonome, Johnny Hodges et Cootie Williams avaient fait le choix de devenir des piliers indéboulonnables, sorte de statut du commandeur d'une grande formation qui avait acquis la notoriété mondiale. L'attractivité que représentait le grand orchestre de Duke Ellington était sans doute irrésistible au moment de la percée du rock, qui, de fait, requalifiait le jazz. Entrée dans l'histoire, cette musique pouvait brandir son propre étendard, tout à la fois en se renouvelant et en affichant des valeurs sûres. Alors la dynamique, forcément, quelques années auparavant, la dynamique était tout à fait différente lorsqu'en 1941, Benny Goodman avait décidé de dissoudre son big band, officiellement pour raison médicale, mais compte tenu aussi de la conjoncture générale, parce que c'était un petit peu compliqué de maintenir une grande formation permanente. De retour sur la scène musicale, il marquera un goût très prononcé pour les petites formations avec des groupes mixtes dont les vedettes étaient issues des orchestres noirs. Ainsi a-t-il enregistré avec une partie de l'orchestre de Count Basie et quelques stars qui sortaient très nettement du lot comme Charlie Christian, le pionnier de la guitare électrique, ou Lionel Hampton avec son vibraphone. Alors séduit par la prestation de Cootie Williams lors d'un concert au Carnegie Hall en 1938, il lui avait fait un pont en or. Je pense que, bon, on ne connaîtra jamais la somme, mais pour le sortir de Duke Ellington, il avait fait ce qu'il fallait. Donc, il l'a attiré dans son groupe. Et là, le trompettiste était tenu de se livrer à sa performance habituelle en tant que spécialiste de la sordine wah-wah. Mais seulement détaché des arrangements de Duke Ellington, où les solos de Cootie Williams étaient intégrés à une conception d'ensemble, ses performances à la trompette bouchée constituaient en fait un phénomène attractif, une curiosité qui suscitait évidemment l'adhésion du public. En 1943, Cootie Williams décida donc de constituer son propre orchestre avec comme pivot un crieur de blues qu'il avait rencontré au Texas, le blues shouter, doublé d'un joueur de saxo alto, Eddie Winston. Avec cet ancrage fondamental dans le blues, leur association a assuré la notoriété de la formation de Cootie Williams qui pratiquait avec brio un blues orchestral particulièrement musclé. Donc on va écouter derrière la voix puissante d'Eddie Winston, la trompette bouchée de Cootie Williams qui fait merveille. Voici Is You Is All, Is You Ain't My Baby. Always late, anytime we have a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk up to her gate and see if I can get it straight, 'cause I want her. I'm gonna ask her, is you ill or is you ain't my baby? The way you're acting lately makes me down. That has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Is you ill or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. Thank you. privé d'enregistrement à cause du boycott des studios décrété par le très puissant syndicat des musiciens, Cootie Williams devra attendre 1944 pour faire des disques avec le big band qu'il avait constitué après avoir quitté Benny Goodman. En prenant l'option d'un blues orchestral, il contribue avec son jeu de sourdine à exacerber des modulations expressives particulièrement poignantes et s'inscrit dans une authenticité qui rompt avec l'exotisme spécifiquement noir qu'il apportait à Benny Goodman dans une démarche purement démonstrative. Il avait fait sensation lorsqu'en 1929, il avait pris la succession difficile de Beaver Miley, le promoteur du genre, qui avait créé ces fameuses ambiances jungle chez Duke Ellington. Au tournant des années 30, le Cotton Club, qui produisait des spectacles de tableaux vivants qui mettaient en scène un exotisme africain très prisé par le public blanc, la trompette wah-wah avec ses effets expressionnistes participait musicalement à la reconstitution d'une ambiance dite jungle qui, comme on sait, la jungle, elle n'existe pas en Afrique. Bien. Donc cette tendance, en fait, bon, a été un petit peu l'image de marque de Duke Ellington pendant plusieurs années et elle fondait très largement les arrangements de l'époque. Ce contexte donnait un rôle essentiel à la trompette de Beaver Miley qui a coécrit de nombreux thèmes avec le Duke et aussi le trombone Tricky Sam Nanton qui deviendra le coach de Cootie Williams dans l'utilisation des sourdines. Détaché de l'univers ellingtonien, le trompettiste va mettre à profit ce savoir-faire dans le cadre du blues, comme on l'a entendu, et il va être un agent actif de nouvelles orientations esthétiques du jazz au tournant des années 50. Profondément enraciné dans son patrimoine musical, il restera ouvert à la modernité en intégrant dans son orchestre de jeunes musiciens prometteurs. Nous avons entendu tout à l'heure un fond de piano qui était dû à Bud Powell avec ses notes en dentelle, ses guirlandes qu'il tisse derrière le blues, c'est magnifique, en laissant voir les prémices de la révolution pianistique qu'il va provoquer un petit peu plus tard. Passeront aussi dans les rangs de l'orchestre Charlie Parker, Thelonious Monk, avec lequel Cootie Williams, c'est peu connu, a coécrit Run Midnight, le grand tube de Thelonious Monk. Et puis aussi passeront évidemment de très nombreux sax ténors au profil identique. Parce que Cootie Williams était conscient que la qualité de ses saxophonistes était un facteur de réussite pour son orchestre. Il les choisissait avec soin, avec un soin tout particulier parmi les honkers justement. Alors cet orchestre de Cootie Williams pouvait ainsi rivaliser avec ses rivaux en privilégiant la couleur et la densité sonore que les sax apportent avec une épaisse sonorité, des modulations expressives proches de la voix et donc finalement une configuration idéale pour accompagner les crieurs de blues et sa trompette bouchée. Alors entre tradition et modernité, voici sa version d'un cheval de bataille de la Nouvelle-Orléans, un vieux blues, Royal Garden Blues, devenu donc réarrangé Blue Garden Blues. Alors, outre Cootie lui-même, on va entendre naturellement Bud Powell qui est mis en vedette, ainsi que le sax ténor rugueux Sam Taylor, qui tous sont à leur avantage. Voici Blue Garden Blues. Thank you. 1944, juste avant l'explosion du bebop, cet arrangement d'un classique du blues, donc Royal Garden Blues devenu Blue Garden Blues, ce classique du blues reçoit un traitement d'une grande modernité pour un big band et qui témoigne de la largeur de vue de Cootie Williams. À la fin de la guerre, tant par ses choix d'effectifs que par son répertoire et ses arrangements, il manifestait un bel esprit d'ouverture. Mais comme bien d'autres, compte tenu des circonstances économiques, il a été contraint de réduire la voilure à partir de 1947 et il a enregistré en petite formation pour la marque Mercury. À l'exemple de Tiny Bradshaw, qui avait mis sur pied un septet pour développer un concept de jump blues particulièrement tonique, Cootie Williams avait diminué la taille de son groupe en cultivant une spécificité que lui autorise ses capacités de soliste. Johnny Hodges et Al Sears, deux anciens pensionnaires de Duke Ellington, agiront de la même façon. Au moment du reflux des big bands et de la prolifération des petites formations, ils vont mettre en œuvre le nouveau concept du jump qui privilégie le swing et une cohésion d'ensemble fondée sur des arrangements simples et efficaces où ils peuvent étaler toute leur classe de solistes. C'est à ces détachements de Duke Ellington que l'émission d'aujourd'hui est consacrée. Vous êtes sur CFM Radio pour cet incubateur de swing qui vous distille ses essences essentielles. Nous sommes à mi-parcours de l'émission, l'essence du swing dans tous les sens. Pendant 30 minutes de musique non-stop, nous allons maintenant écouter comment des anciens de Duke Ellington vont développer leur personnalité propre à travers leur petite formation, celle qu'ils avaient constituée au tournant des années 50. Des formations où leurs arrangements mettent en œuvre tout l'apport des big bands, mais dans un contexte resserré qui laisse libre cours à un swing énergisant et dynamise des solistes particulièrement créatifs. Parmi eux, l'incontournable saxophoniste ténor qui laisse parler sa puissance sonore et une expressivité exacerbée. Écoutons Cootie Williams décliner en 1949 son cocktail explosif façon Tiny Bradshaw au ténor Willis Jackson et au chant Bob Merrill.
Come on, let's turn them on. Come on, let's turn them on, Bob. Come on, turn them on. Let a good time roll. Let them roll this morning. Oh, let a good time roll. Let them roll this morning. I want to be holding you tight, baby, when the sun rises up this morning. Oh, you're fine, baby. You got such pleasing ways. Hey, little girl, you're fine. You got some pleasing ways. Well, come on, baby, let's jump our blues away. Oh, let 'em roll this morning. Hey, little good time roll, let 'em roll this morning. We're gonna be jumping and rocking when the roosters close in the morning. Walk on, blow Willis, hey!
Oh. like it ought to be. Go away, away down and hide behind a big oak tree. Go away, away down and hide behind a big oak tree. Nobody gonna play the game but just you and me. Now 10, 20, 25, 30, 35, 40, now Lord, if it's glory, oh boy. Oh boy, oh boy, have some fun tonight. Yeah, all ain't hid, can't hide over. You can't hide behind a four-leaf clover, no boy. Oh boy, oh boy.
Oh boy, oh boy, there'll be some fun.
C'était Hide and Go Seek, un thème de Big Joe Turner, le grand crieur de blues, enregistré en 1959, soit 10 ans après le premier morceau que nous avons entendu. Donc, le trompettiste ellingtonien Cootie Williams avait surpris son auditoire en présentant sur la scène de l'Olympia à Paris un petit orchestre qui n'avait plus rien d'ellingtonien. Au cours des 10 années écoulées, détaché de Duke, il avait fait une incursion dans un blues orchestral qui faisait fureur à l'époque, avec des effets dévastateurs. Et au croisement du swing et du blues, nous avons entendu Cootie Williams mettre en valeur sa trompette sur un thème créé par le crieur de blues, donc Big Joe Turner, pionnier du genre, qui s'était entouré de la triade gagnante, guitare électrique, sax ténor et clavier, piano ou orgue. Donc Cootie Williams s'inspire ici avec Maestria, accompagné par le chanteur-guitariste Larry Dare et le sax ténor Georges Clark. Peu de temps après, il abandonnera cette formule lorsque, tournant des années 60 à la faveur du revival, l'espace du blues sera principalement occupé par des guitaristes solitaires du country blues. Duke Ellington verra alors revenir vers lui ceux qui s'en étaient détachés, les Cootie Williams et autres Johnny Hodges, qui entre 1951 et 1955 avait lui aussi pris le chemin de traverse pour créer son petit groupe. Son originalité tenait pour beaucoup à son directeur musical et arrangeur, son collègue de pupitre chez le Duke, le sax ténor Al Sears, adepte d'un swing intense, servi par des arrangements très personnalisés qui mettent en valeur les solistes punchers. L'occasion pour Johnny Hodges d'une immersion dans un univers musical où la cohésion d'ensemble est assurée par l'intensité rythmique que renforcent des procédés venus des big bands extrêmement porteurs. Sideway, signé par le pianiste Leroy Lovett, où l'on retrouve la patte du sax ténor et arrangeur Al Sears, qui s'octroie un solo dans son style immédiatement identifiable. Comparse et faire-valoir de Johnny Hodges, Al Sears va créer sa propre formation au moment où Hodges réintégrera l'orchestre de Duke. Lui connaîtra un autre parcours en faisant valoir ses performances de sax ténor dans des formules qui en fait sont des matrices pré-rock. On l'écoute dans des disques qu'il a enregistrés sous son nom et qui mettent en valeur son volume sonore, ses notes puissamment attaquées et ses inflexions. Avec Al Sears et son sax ténor à la virilité exacerbée que nous allons nous quitter, il ne réintégrera pas les rangs de Duke Ellington et suivra une autre voie, au contraire de Cootie Williams et de Johnny Hodges. L'allégeance à Duke consacrera ces deux-là comme vedette inamovible de l'orchestre le plus créatif que le jazz ait connu et dont ils ont contribué à établir la notoriété universelle. Au tournant des années 50, où l'avenir des big bands s'était soumis à condition, ils avaient pris des chemins de traverse et ils s'étaient offert une escapade pour jouir d'une liberté que leur offraient les petites formations. L'essence du swing dans tous les sens, vous a entraîné au cœur de cette aventure musicale, celle de ces détachements du Duke dont la réussite fut totale, une parenthèse riche en expérience, bien que limitée dans le temps. Vous retrouverez votre incubateur de swing tous les deuxièmes jeudis du mois à 20h, une émission disponible en podcast sur cfmradio.fr.
Thank you.